Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous entrons aujourd'hui dans la grande semaine sainte, avec la fête des rameaux, aujourd'hui, le triomphe de notre Seigneur, et aussitôt après, la passion qui commence. La passion, c'est vraiment l'union de la justice et de la miséricorde de Dieu. Cela tombe bien puisque nous en étions arrivés à ce point que traite saint Thomas d'Aquin dans notre étude sur Dieu, la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu et les rapports entre la justice et la miséricorde. Il est évident que c'est en notre Seigneur que l'union de la justice et de la miséricorde de Dieu se manifeste le plus. Il est important de parler de la justice de Dieu. Certes, la justice sans miséricorde est cruauté, dit saint Thomas d'Aquin, mais la miséricorde sans justice engendre la ruine. Et c'est pourquoi il faut que les deux aillent ensemble, comme le dit le proverbe, « Que miséricorde et vérité ne te quittent pas », et le psaume « Miséricorde et vérité se sont rencontrés ». Il faut donc insister, surtout de nos jours, sur la justice de Dieu. Parce qu'on ne parle plus que de miséricorde. Une miséricorde sans justice n'est plus de la miséricorde, c'est de la ruine. Or, ce qui est de la ruine n'est pas vrai. Une miséricorde qui mène à la ruine n'est pas une miséricorde. Et donc, c'est une fausse miséricorde qu'on a aujourd'hui. Commençons donc par la justice. Dieu est juste. Dieu est juste non pas parce qu'il nous doit à nous quelque chose. Il est juste envers soi-même parce qu'il doit respecter et faire respecter son œuvre. Il se respecte soi-même d'abord, Dieu bien entendu, et il fait respecter son œuvre. Et parce qu'il respecte son œuvre, il nous donne en toute justice ce qui nous convient. Il est juste qu'un homme ait deux yeux, deux bras, deux jambes, non pas parce que c'est dû à l'homme, mais parce que du moment que Dieu dans sa sagesse a fait la nature humaine, il est normal et juste par conséquent, d'une justice envers lui-même, qu'il se doit à lui-même de faire correctement ce qu'il a entrepris. Et par conséquent, il est très important de savoir que la justice de Dieu ne nous donne aucun droit sur Dieu, mais nous savons que Dieu étant juste, il ira jusqu'au bout de ce qu'il a entrepris. Notamment, lorsque Dieu nous donne la grâce, il s'engage par là à nous assister par toutes les grâces actuelles, par tous les dons surnaturels. C'est une justice de Dieu que du moment qu'il nous appelle à lui, il nous donne les moyens d'y arriver. Mais c'est lui qui nous les donne. Nous ne pouvons pas les trouver nous-mêmes, bien entendu. Et cela doit beaucoup nous rassurer. Dieu étant juste, les moyens ne nous manquent pas. Si les choses tournent mal, c'est de notre faute, pas de la faute de Dieu. Deuxième remarque que je voulais vous faire, la justice de Dieu n'est pas égalitaire. Bien sûr, Dieu n'a qu'un amour, et donc il n'aime pas les uns plus intensément que les autres. Mais son amour distribue des biens différents aux uns et aux autres, et cela c'est justice. C'est justice et il est très important. Aujourd'hui, où nous avons une mentalité démocratique, c'est-à-dire égalitaire. La démocratie, ce n'est pas le suffrage universel. Le suffrage universel est faux parce qu'il repose sur quelque chose d'égalitaire. Comme si chacun avait les mêmes opinions, les mêmes connaissances, les mêmes capacités à juger de tout, du président de la République, de la guerre, de la conduite des affaires de l'État et tout ça. Non, vous en avez fait qui sont doués en ceci et d'autres qui sont doués en cela. Et d'ailleurs, c'est normal parce que Dieu leur a confié telle tâche et il leur donne tel moyen. Lorsque Dieu donne à un homme des qualités pédagogiques pour en faire un professeur, il ne lui donne pas les qualités guerrières pour mener la guerre. Et c'est juste, précisément. La démocratie prétend que le professeur doit avoir les mêmes qualités que le général les mêmes qualités que le professeur, le pauvre les mêmes qualités que le riche. Alors c'est là justement que le bât blesse. Et Léon XIII, dans son encyclique Rerum Novarum sur la condition des ouvriers, dit « Il est normal qu'il y ait des riches et des pauvres ». Si nous devions étudier, analyser cette raison pour laquelle il y a des riches et des pauvres de façon strictement humaine, nous arriverions bien entendu à la vérité, c'est normal, c'est bon, c'est souhaitable, mais elle serait un petit peu dure à accepter. Mais comme notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre parmi les pauvres, alors cela nous aide considérablement à comprendre que la pauvreté d'argent n'est pas une malédiction, et que la richesse est donnée par Dieu à certains, d'abord pour faire la miséricorde, deuxièmement pour entreprendre des œuvres au service du prochain. Pourquoi la justice de Dieu est-elle inégale, en ce sens que Dieu donne des choses inégales aux uns et aux autres? Parce que nous avons chacun une place à tenir dans le monde et dans l'Église, et il n'y a que Dieu qui tient toute la place. Dieu, évidemment, possède la perfection parce qu'il agit partout, en tout, mais nous n'agissons pas en tout et partout. Nous n'avons pas besoin d'avoir les qualités et les grâces d'un évêque si nous ne sommes pas évêques. Vous n'avez pas à avoir les qualités et les grâces d'un époux si vous n'êtes pas marié. Et il est quand même assez difficile d'être à la fois époux et évêque, époux, évêque et général, époux, évêque, général et professeur, comment voulez-vous que nous assumions tout? Ce n'est pas possible. Face à cette inégalité de Dieu, il y a deux réactions mauvaises possibles. Premièrement, refuser l'inégalité, c'est ce que je viens de vous décrire, l'erreur démocratique, le refus, c'est même pas une erreur, c'est un refus, c'est une révolte. Cela revient à accuser Dieu. Dieu est injuste parce qu'il n'a pas tout donné à tout le monde. Et la deuxième erreur, qui est très fréquente elle aussi, qui est de se contenter d'une médiocrité avec le raisonnement « Puisque Dieu ne m'a pas tout donné, je ne suis pas parfait. Si je ne suis pas parfait, je suis médiocre. Si je suis médiocre, c'est que Dieu l'a voulu et par conséquent, je n'ai pas à rechercher la perfection. » Ah non! Je n'ai pas toutes les qualités, mais les qualités que Dieu m'a données, il me les a données d'une façon aussi parfaite qu'il me convient. Un pauvre doit être un pauvre parfait, un riche parfait, un père de famille doit être parfait, et un religieux doit être parfait. Et donc, la bonne réaction face à l'inégalité dans les choses de Dieu, c'est non seulement d'accepter cette inégalité. Saint Paul a pris l'exemple des membres du corps. La main n'est pas le pied n'est pas la tête. Et comme le dit Saint Paul pour faire l'application, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas évêques, tous ne sont pas prophètes, etc. Et par conséquent, ce que nous devons faire, c'est chercher à correspondre à tout l'amour de Dieu pour nous, en ayant la perfection que Dieu veut pour nous. Dieu nous a donné quelque chose. Il veut que ce soit parfait. Nous n'avons pas à comparer avec la perfection des autres. Nous avons à comparer avec la perfection que Dieu attend de nous. Et d'autant plus que la vraie dignité de l'homme se trouve dans la charité. Attention, la charité, amour de Dieu, je ne parle pas de l'amour du prochain. L'amour du prochain est une conséquence. Nous verrons cela avec la miséricorde. La vraie dignité de l'homme se trouve dans la charité, et c'est là où c'est absolument merveilleux, c'est que la charité, un haut degré de charité, est possible aussi bien chez les pauvres que chez les riches, et il est même plus facile chez les pauvres que chez les riches. Il est plus facile d'avoir la charité en étant petit qu'en étant grand, parce que le grand est tenté par l'orgueil. Il est aussi difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et puis il y a un troisième élément de la justice de Dieu sur lequel il faut absolument nous attarder, c'est la justice de Dieu par rapport au péché. Nous avons trop souvent, trop facilement tendance, et c'est souvent plus qu'une tendance, à négliger la gravité du péché. Or, saint Thomas d'Aquin nous dit que le péché a quelque chose d'infini à cause de l'infinie majesté de Dieu offensé. Si j'offense mon petit frère, l'offense est beaucoup moindre que si j'offense mon père, et encore moindre que si j'offense Dieu. Le péché s'oppose à Dieu et ça lui donne quelque chose d'infini. Et voilà pourquoi Dieu ne peut pas, parce qu'il est juste, parce qu'il se doit lui-même de se faire respecter, il ne peut pas négliger la gravité du péché. Il ne peut pas mépriser le péché. Il ne peut pas oublier le péché. Il faut que le péché soit réparé. Bien sûr, il y aura la miséricorde, mais si la miséricorde évacue la justice, je vous l'ai dit avec saint Thomas, c'est la ruine. La miséricorde ne consiste pas à oublier le péché, ça c'est la miséricorde protestante. Je suis pécheur, Dieu accepte que je sois pécheur, il sait très bien que je ne peux pas me sortir du péché, donc il m'accepte tel que je suis. Et ça, c'est un discours que vous avez dans beaucoup d'églises modernes et dans beaucoup de confessionnaux modernes, dans la mesure où les prêtres modernes confessent encore. Et pourquoi ils ne confessent plus ou très peu? Parce que justement, ils ont méprisé la gravité du péché. Ça donne des formules « Dieu vous aime tel que vous êtes ». Qu'est-ce que la miséricorde? Elle consiste à considérer la misère d'autrui comme étant la nôtre. Ça, c'est merveilleux. Il faut partir de là, déjà. Dieu s'unit tellement à nous qu'il considère notre misère comme étant la sienne. Nous devrions être plongés dans l'admiration, dans l'adoration de Dieu qui est miséricordieux envers nous. Cela se réalise surtout en Jésus-Christ, je vous l'ai dit, et ça va être l'objet de nos méditations pendant la Semaine Sainte. Il va falloir, durant la Semaine Sainte, que nous méditions sur la justice de Dieu et sur la miséricorde de Dieu, jamais l'un sans l'autre. Or, que ferions-nous pour nous? Si nous n'avions pas à manger, nous trouverions de quoi manger. Si nous étions blessés, nous trouverions de quoi nous guérir. C'est ce que Dieu fait pour nous. Nous n'avons pas de pain pour notre âme, surtout, et Dieu nous donne le pain de la grâce. Nous sommes malades. Et Dieu nous guérit par les sacrements, par la grâce, par la puissance de la prière. C'est une restauration intérieure, profonde. Et Dieu est tellement miséricordieux que s'il permet un mal, c'est toujours pour un plus grand bien, même pour le péché. Ça ne veut pas dire que le péché est négligeable. Ça veut dire que le péché, aussi grave soit-il, a été permis par Dieu, en ce sens que Dieu ne l'a pas empêché, parce qu'il veut donner beaucoup plus de grâce encore, et il veut tirer un grand bienfait du péché. Et ça, c'est la vraie miséricorde. Non pas la miséricorde protestante et moderniste qui nous laisse dans la médiocrité, mais la miséricorde qui fait monter plus haut. Quelle est la conséquence par rapport à nous de la miséricorde de Dieu ? Il ne s'agit pas de profiter de la miséricorde de Dieu de façon égoïste en disant « je prends ». Vous imaginez un grand sportif qui s'est blessé, qui s'est claqué un muscle. Aussitôt, le médecin se précipite pour le soigner. Imaginez que ce sportif, après avoir été soigné, dise au médecin « Ah, je vous remercie, docteur, maintenant je vais pouvoir regarder la télévision ». Le médecin dirait « Mais c'est pas pour ça que je me suis donné du mal ». Je t'ai donné du mal pour que tu reviennes à ta course, tu reviennes à ton sport, et tu sois le premier. Vous imaginez un fils de famille qui est tombé dans la ruine, et le père le secourt, lui donne l'argent dont il a besoin. Imaginez que ce fils de famille, après cela, dise à son père « Oh, je te remercie, papa, je vais pouvoir maintenant vivre sans travailler ». Non, son père lui dit « Attends, si je t'ai sorti de la ruine, Si je t'ai donné tant de choses, c'est pour que tu en fasses bénéficier tes frères, tes sœurs, les pauvres, que sais-je, et puis que tu sois un honneur pour notre famille, un honneur pour moi. Alors on peut dire, vous voyez, que la miséricorde nous crée plus de devoirs que n'en a créé la justice. Je veux vous faire remarquer, enfin, à propos de la miséricorde, que Jésus nous dit dans l'Évangile « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. » Et c'est pourquoi nous serons jugés sur notre miséricorde. « Venez à ma droite, les bénis de mon Père, car j'ai eu faim, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, à manger, j'étais nu, vous m'avez couvert, etc. Allez, maudit au feu éternel, parce que j'avais faim, j'avais soif, et vous ne vous êtes pas occupé de moi. Oh Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim et soif? Mais lorsque vous avez vu le prochain, que vous ne vous en êtes pas occupé. Cela veut dire que moi, qui suis miséricordieux envers les pauvres, vous, vous n'avez pas cherché à être miséricordieux, vous n'avez pas imité, je ne vous connais pas, vous n'êtes pas chrétien, vous ne me ressemblez pas, puisque vous n'êtes pas miséricordieux. C'est la miséricorde qui nous fait ressembler à Dieu. Dieu le Père de miséricorde. La conclusion de tout cela par saint Thomas d'Aquin, c'est que la miséricorde en Dieu précède toujours la justice, mais attention, hein, pas dans le mauvais sens que je vous ai indiqué et qui est condamnable, dans le vrai sens, à savoir que la création nous sort du néant. Donc c'est d'abord une miséricorde, puisque Dieu se penche sur la misère du néant. Après ça, il donne des choses, et ça c'est la justice, puisqu'il nous donne deux pieds, deux jambes, etc. La grâce sanctifiante est sans mérite de notre part. Et qui a mérité le baptême? Qui a mérité la première grâce? Dieu s'est penché sur nous en miséricorde, et après cela, effectivement, vient la justice, il nous donne et il s'engage à nous donner tout ce qu'il faudra pour arriver au ciel. La rédemption nous sort du péché. Alors ça, s'il y a vraiment quelque chose qui manifeste la primauté de la miséricorde en Dieu, c'est bien la rédemption, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Finalement, il y avait beaucoup de choses dans ce sermon. Un simple sermon sur la justice et la miséricorde de Dieu. Eh oui, alors il faut peut-être résumer un petit peu pour que vous n'oubliez pas. Dieu est juste, non pas en ce qu'il nous doit quelque chose, mais en ce qu'il, dans sa sagesse, il fait bien tout ce qu'il fait, et nous savons que nous pouvons compter sur lui. C'est ça la justice de Dieu envers nous. La justice de Dieu, pour le dire avec les termes modernes, est inégale, mais en réalité, ce n'est pas cela qu'il faudrait dire. La justice de Dieu distribue ses dons à chacun, et comme, évidemment, il ne peut pas tout donner à chacun, parce que sinon, chacun de nous serait Dieu, ce qui n'est pas possible, il donne ceci aux uns, ceci aux autres, et il ne faut pas regarder l'inégalité, il faut au contraire regarder la mission qui est confiée en même temps que le don, il faut regarder la perfection que Dieu attend de nous à partir des dons qu'il nous a faits. Enfin, il faut méditer sur la justice par rapport au péché, et ça, nous n'aurons jamais une conscience suffisante du péché, parce que si le péché a quelque chose d'infini, nous qui ne sommes pas infinis, comment voulez-vous que nous saisissions l'infini ? Et dans la deuxième partie du sermon, nous avons parlé de la miséricorde. Nous avons défini la miséricorde, qui est de considérer la misère d'autrui comme si elle était notre misère. Et c'est extraordinaire que Dieu soit miséricordieux, que Dieu s'unisse tellement à l'humanité, voyez, qu'il prenne tant à cœur, si je puis dire, notre pauvre condition, qu'il considère comme sien tout ce qui est à nous, toute notre misère. Et nous avons conclu sur la vraie miséricorde qui consiste à remédier à la misère et non pas à l'oublier et non pas à l'effacer comme cela et non pas à ne pas en tenir compte, surtout quand il s'agit de la misère du péché. Nous avons dénoncé la fausse miséricorde protestante et moderniste qui consiste à oublier le péché. Le péché n'est pas grave. Non, le péché est très grave. Ça, c'est la justice. Et la miséricorde de Dieu dépasse sa justice et il tire un bien plus grand du mal qu'il n'a pas empêché. Et du coup, cela a pour nous des exigences plus grandes qu'avant le péché. D'où l'importance des œuvres de miséricorde, sans lesquelles il ne peut pas y avoir d'éducation, sans lesquelles il ne peut pas y avoir de sainteté chrétienne, le jugement de Dieu, venez à ma droite, les bénis de mon Père, car, etc. Allez à ma gauche, les maudits, car j'avais faim, j'avais soif, etc. Que Dieu vous enrichisse de cette miséricorde que nous voyons dans le lavement des pieds. Jésus-Christ vraiment montre sa miséricorde dans le lavement des pieds. Eh bien, comprenons cela, faisons fructifier cette leçon de Dieu et sortons de cette semaine sainte plus miséricordieux et plus juste que nous ne l'étions en y entrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.